France Inter, 7h.
La chose la plus importante dans la vie, si tu dis bien bonjour, t'as fait la moitié du chemin.
France Inter, Léa Salamé, Nicolas Demorand.
Demain bonjour.
Le 7-9.
Et le bonjour de Jean-Paul Belmondo pour vous accueillir dans le 7-9 de ce mardi 7 septembre. Bonjour Anaïs Feuga.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous.
À la une de l'actualité ce matin, du visage bleu de Pierrot le Fou au sourire carnassier du magnifique, le public et le monde du cinéma rendent hommage au plus sportif des monstres sacrés du cinéma français. Jean-Paul Belmondo, mort hier à 88 ans. Une large partie du journal lui est consacrée, une large partie du 7-9 aussi, notamment avec vous Léa à 7h50.
Et oui, elle dit de Belmondo qu'il était son petit frère, l'une des dernières survivantes de la bande du conservatoire. Françoise Fabian sera avec nous à 7h50 et puis Dominique Besnéder également, qu'il a connu quand Belmondo était l'acteur le plus important, le plus charismatique de l'agence Art Media, ils nous raconteront.
À tout à l'heure Léa, les autres titres Anaïs.
Un procès marathon, 9 mois pour connaître, comprendre, entendre les victimes des attentats du 13 novembre 2015. Le procès s'ouvre demain, on verra comment il se déroule. La majorité présidentielle s'interroge sur la suite à donner au macronisme. Nous serons à Angers et puis la fête nationale à haut risque au Brésil. Le président appelle ses partisans à marcher sur la Cour suprême.
Et à 8h20, nous recevons avec Léa dans le grand entretien de la matinale l'entrepreneur, ancien ministre de l'économie et du redressement productif de François Hollande, candidat à la présidence de la République, Arnaud Montebourg. Vous pourrez dialoguer avec lui au 01 45 24 7000.
France Inter.
Comment dire adieu à Jean-Paul Belmondo ? Quel hommage de la France pour un acteur aussi populaire chez les jeunes que chez les plus anciens ? Rien de précis encore, mais sa famille discute avec la présidence de la République. Après le décès de Bébel hier à 88 ans, il faudra être à la hauteur, dit Thierry Frémaux, délégué général du Festival de Cannes.
Je crois que l'hommage rendu à Johnny Hallyday était très beau, très fort, et que Jean-Paul Belmondo mérite pas moins, différemment. Autre chose. Je ne sais pas, je pense qu'on est en train de lui rendre un hommage national. Là, il y a les films qui sont à la télévision, les gens qui s'échangent ça sur les réseaux sociaux. Tout le monde est en train de penser à lui. C'est même un hommage international qui est en train de se dérouler là, en ce moment. Et c'est bien, d'ailleurs, c'est bon de parler de lui. Il faudra aussi parler de lui dans un an, dans 10 ans, dans 100 ans. Mais ça, j'ai pas beaucoup de doutes. Et quant à l'hommage national, le président de la République saura trouver.
Thierry Frémaux, directeur de l'Institut Lumière de Lyon. Jean-Paul Belmondo avait disparu des écrans il y a 20 ans après son accident vasculaire. Et pourtant, il nous a accompagnés si longtemps qu'on le pensait là pour toujours. 130 millions de spectateurs cumulés au cinéma. Adrien, dans L'Homme de Rio, l'un des plus grands succès populaires de ses 80 films. Bonjour Corinne Pellissier.
Bonjour.
50 ans de carrière, racontée dans son autobiographie. 1000 vies valent mieux qu'une, sortie il y a 5 ans.
Une vie dévorée avec gourmandise, toujours partant pour la bagarre ou une virée entre copains. Avec sa bande du conservatoire, Jean-Pierre Marielle, Guy Bedos et Jean Rochefort, avec lesquels il aura fait les 400 coups avant le choc Jean-Luc Godard en 1960, et le film À bout de souffle, une allure, une gueule, un phrasé, et le point de départ surtout de la légende Belmondo. 50 ans de carrière, 80 films et pratiquement aucun regret, si ce n'est ces trois personnages qu'il n'aura jamais pu incarner sur scène ou à l'écran: Scapin, Céline et Jacques Mesrine. À l'aise dans tous les registres, intello et populaire à la fois, il aura travaillé avec les plus grands: Jean-Pierre Melville, Georges Lautner, Claude Sautet, Gérard Houry, Philippe de Broca aussi, le complice qui lui a donné le goût du rocambolesque. La confiance aussi pour accomplir toutes les actions les plus périlleuses avec L'Homme de Rio et Les Tribulations d'un Chinois en Chine. Ses meilleurs souvenirs de tournage, racontait-il dans sa biographie, remplis de blagues potages, de concours de farine dans les hôtels. Jean-Paul Belmondo avait cette âme d'enfant, le revendiquait.
Vous savez, les acteurs, on garde toujours une âme d'enfant. Je crois que bon, il y a déjà un scientifique, vous l'admirez beaucoup, comme tout le monde, mais nous, on va jouer, c'est pas sérieux.
Lui qui avait connu la privation pendant la guerre, vivait sa vie pied au plancher, sans peur et sans jamais s'apitoyer.
Et avec un goût, Corinne, un très prononcé, vous l'avez dit, pour la bagarre, les cascades, au volant d'une voiture, dévalant des escaliers ou suspendu dans le vide.
Une condition hors norme, un goût pour le risque qu'il gardera longtemps, en dépit de quelques bobos pendant ses acrobaties, en nez ou des dents cassées. Il faut revoir pour frissonner Le Guignolo, Peur sur la ville, Flic ou voyou, L'As des As, et cette dernière cascade en 98 chez Patrice Lecomte.
Je vais pas me retaper ce truc-là.
C'est bon, vas-y.
Allez, accroche-toi, Jeannot, c'est reparti pour un tour.
Jean-Paul Belmondo, 62 ans, suspendu à l'échelle d'un hélicoptère dans le film Une chance sur deux avec Vanessa Paradis et Alain Delon. Une amitié qui ne s'est jamais tarie quand le public ne voulait voir en eux que des rivaux. Aussi charmeur et exubérant à l'écran qu'il était discret dans sa vie personnelle, Jean-Paul Belmondo aura serré dans ses bras les plus belles femmes du cinéma, certaines avec passion, de Catherine Deneuve à Claudia Cardinale, en passant par Ursula Andress ou Laura Antonelli, rencontrée sur le tournage des Mariés de l'an 2.
Merci Corinne Pellissier, spécialiste cinéma de France Inter. Vous parliez de sa vie personnelle, 30 ans dans le quartier latin, rue des Saints-Pères à Paris, numéro 9. C'est là que Faustine Calmel a rencontré Jeanne. Elle a travaillé avec Jean-Paul Belmondo dans les années 90.
C'était quelqu'un d'une extrême gentillesse. C'était la vie même, Jean-Paul. C'était une gaieté. Il était généreux, il était joyeux. Pour moi, c'était la vie. C'est ridicule de dire ça d'un mort. C'était un homme vivant qui existait vraiment. Et il y a beaucoup de gens vivants qui n'existent pas vraiment. C'était un type bien, voilà, je crois que c'était un type bien.
Un type que le public français ne s'est jamais lassé de revoir à l'écran. D'ailleurs, les chaînes de télévision ont bouleversé leur programme pour Itinéraire d'un enfant gâté, Le voleur, L'as des as. Son portrait ce matin, tantôt pitre, tantôt gros bras, à la une de tous les journaux et même au-delà de nos frontières, à Berlin, Ludovic Piétonu.
Avec une carrière aussi longue que la sienne, les Allemands n'ont pas pu passer à côté de Jean-Paul Belmondo, surtout dans les années 70-80. Ses énormes succès dépassent les frontières françaises. Les cascades qu'il réalise lui-même en font un acteur unique aux yeux des Allemands.
Jean-Paul Belmondo.
Invité d'une émission de télé outre-Rhin, il débarque ici en hélicoptère, suspendu à une échelle comme dans son film Le Guignolo. Une arrivée pas commune comme seuls peuvent en faire les mégastars et acclamée comme telle par le public allemand. Dans cette autre émission, en 1989, le présentateur s'étonne qu'il ait quitté le domicile familial à 17 ans.
Stimmt das von zu Hause ausgerissen?
Oui, comme un grand garçon.
Ja, da war ich schon recht groß.
Sie haben, glaube ich, mal früher geboxt.
Il rappelle volontiers aussi son passé de boxeur.
Oui, j'ai fait de la boxe.
Celui qui met des grosses baffes, les mêmes doublées en allemand.
Aber du hast recht. Das ist nur der Job.
Toute la presse allemande lui rend hommage. Il était un dangereux romantique pour le Süddeutsche Zeitung. Il était le visage du cinéma français selon Bild, le quotidien le plus populaire du pays qui barre sa une d'un titre en français. Au revoir Jean-Paul. Berlin, Ludovic Piétenu, France Inter.
Au revoir Belmondo. Après Jean Rochefort, Jean-Pierre Marielle, Claude Rich et Guy Bedos, la bande du conservatoire tourne peu à peu la page. Claudia Cardinale bouleversée, Alain Delon anéanti. Le merci de Teddy Riner et de Jean Dujardin. Les festivals de Cannes et de Venise saluent un acteur généreux et sympathique. Allez, pour le plaisir, 6 films emblématiques qui ont fait la carrière de Jean-Paul Belmondo et les citations cultes. Mmh. C'est à retrouver sur franceinter.fr.
Il est 7h08, 9 mois d'audience et un procès pour l'histoire.
Celui qui s'ouvre demain, 20 hommes jugés pour les attentats du 13 novembre 2015, 130 morts à Saint-Denis, aux terrasses de Paris et au Bataclan. Charlotte Piré, comment ce procès va-t-il se dérouler?
Une fois passés les 2 jours consacrés à l'appel des 1800 parties civiles, l'audience entrera véritablement dans le cœur du sujet la semaine prochaine, en 10 séquences qui s'est déroulée cette nuit-là. Enquêteurs, forces de l'ordre intervenues dès les premiers instants, membres des services de renseignement se succéderont à la barre jusqu'à la fin septembre. Puis viendra le temps des parties civiles, survivants blessés ou traumatisés et familles des victimes pour ceux qui souhaitent prendre la parole. 5 semaines leur sont consacrées. Ce sera le temps de l'émotion, des récits d'horreur, de la résilience pour certains. Puis il faudra dépasser cette émotion et se plonger dans les trajectoires des 20 hommes jugés dans ce procès. Ce sera à partir du mois de novembre avec les interrogatoires des accusés. La Cour entendra aussi à cette période-là François Hollande, Bernard Cazeneuve, ministre de l'Intérieur en 2015, ou le procureur François Molins. En 2022, après une pause pour les fêtes de fin d'année, il sera beaucoup question des préparatifs de ces attentats avant de clore les débats au printemps pour entendre les plaidoiries des avocats jusqu'à la fin mai, le verdict étant pour l'instant prévu vers le 25 mai 2022.
Et France Inter suivra en intégralité ce procès des attentats du 13 novembre 2015. Que doit devenir la Macronie au-delà de la personne du président de la République? Interrogation existentielle de la majorité depuis des années et encore plus à quelques mois de la présidentielle. Le week-end dernier, 2 proches d'Emmanuel Macron ont relancé l'idée d'un grand parti démocrate et ça trotte dans la tête des parlementaires de La République En Marche réunis à Angers. Simon Le Baron.
Sur le fond, tout le monde est d'accord. Sur la forme, en revanche, personne. Pas même le secrétaire d'État Clément Beaune, pourtant appelé à jouer un rôle de premier plan dans la campagne. Personne n'a l'air de savoir à quoi doit ressembler ce grand parti démocrate.
Écoutez, ça je ne sais pas et c'est trop tôt pour le dire, mais ça viendra
dans les mois qui viennent.
Les macronistes savent en tout cas ce dont ils ne veulent pas, c'est déjà ça. Ni une confédération type UDF, ni un parti unique type UMP, explique le ministre modem Marc Fesneau.
Qu'est-ce qui a fait parfois mourir les partis? C'est un, où tout le monde est à la même toise et on dit tout le monde pense pareil. Bon, ça c'est la version UMP. Où vous êtes dans quelque chose où chacun essaye de faire vivre sa propre structure et se mesure à l'aune de nombre de militants et dit, bah moi, puisque j'ai plus de militants que toi, j'ai le droit à plus de ceci et cela.
En finir enfin avec les petits accords de boutique, pas gagné à entendre le député Roland Lescure, qui regarde amusé ses collègues tenter de dessiner les plans de cette maison commune.
Bah, je sais pas si tout le monde pense à la place qu'il aura dedans, mais certains sont sans doute effectivement en train de se demander s'ils habiteront au premier étage ou au second.
Mais pendant que les macronistes cherchent le moyen de survivre à Emmanuel Macron, le président, lui, regarde tout ça de très loin. Ce qui compte, tranche l'un de ses amis, c'est l'homme et la marque. Voilà qui explique sans doute pourquoi la majorité présidentielle a tant de mal à se réinventer.
Le pic des hospitalisations est passé en Guadeloupe grâce au confinement, mais gare à la rentrée scolaire le 19 septembre. Le virus du Covid est toujours là. Aux États-Unis, le Texas, l'un des États les plus riches de la première puissance mondiale, débordé par le variant Delta. Salle de réunion de l'hôpital de Houston transformée en unité de soins. Patients obligés de rester dans les cliniques rurales mal équipées. Ils ont commencé à marcher vers le Congrès, la Cour suprême. Les partisans du président brésilien par centaines à bord de camions, de voitures, cordons de police brisés à Brasilia. Bruit de bottes insistant au Brésil 36 ans après la fin de la dictature militaire. Journée à haut risque, Anne Vigna.
C'est une fête nationale bien particulière que va vivre aujourd'hui le Brésil. Le président Bolsonaro appelle en effet ses partisans depuis des semaines à venir manifester dans tout le pays contre la Cour suprême et le Congrès. Le président n'a cessé de menacer la démocratie comme le 3 septembre dernier.
Nous n'avons pas besoin de nous opposer à la Constitution. Mais si quelqu'un ne la respecte pas, nous aussi nous pourrions le faire.
Pour le président, l'armée devrait intervenir contre les pouvoirs judiciaires et législatifs qui se sont opposés à changer le système de vote pour la prochaine élection présidentielle en octobre 2022. Selon tous les sondages, Bolsonaro perdrait face à l'ancien président Lula qui pourrait se représenter. Et plus la crise sanitaire et économique augmente, plus le président Bolsonaro se fait menaçant. Ce mardi, la gauche appelle aussi à manifester, mais loin des partisans du président, pour éviter tout risque de violence. Rio de Janeiro, Invinia France Inter.
Match décisif ce soir pour l'équipe de France de football. Objectif, prendre la première place du groupe D pour se qualifier pour le mondial. Ce soir à Lyon face à la Finlande. L'atout français s'appelle Karim Benzema, de retour devant son public. France-Finlande, coup d'envoi 20h45. Et puis le roi Pelé en train de récupérer dans un hôpital de Sao Paulo. L'un des derniers monstres sacrés du football, âgé de 80 ans, a été opéré d'une tumeur suspecte au côlon.
Anaïs Feugat, merci.